Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Le paddock RMC rebascule en mode compétition, les amis. C'est l'heure du warm-up du Grand Prix de Miami. Un mois que la Formule 1 a stoppé son activité suite à la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Iran, bien évidemment. Et on a hâte de retrouver les monoplaces sur la piste. Ce sera à Miami ce week-end. Vous le savez, on reprend notre format habituel, un petit warm-up pour vous présenter tout ce qui va se passer dans le week-end. Revenir sur l'actu F1, il y en a eu plein, bien évidemment, pendant ce mois de trêve. Tiens, j'en profite pour vous dire que vous avez plein de podcasts là qui ont été partagés, publiés sur la chaîne podcast du paddock RMC. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Comme ça, vous avez toutes les notifs qui tombent à chaque fois qu'on met en ligne un podcast. Vous avez notamment une bataille des époques entre la team Jean-Luc Roy et la team Alex Caldi pour déterminer qui est le meilleur pilote potentiellement entre les années 80 jusqu'à aujourd'hui, avec un Louis Gerbier en juge exceptionnel.
Qui a tout remis sur les épaules du producteur.
Ouais, exactement. C'est surtout Kylian qui a décidé de l'issue de cette battle. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore écouté, vous foncez parce que le format est sympa et on attend vos retours. Je vous rappelle également la page Instagram Paddock RMC sur laquelle vous avez toutes les infos, tous les visuels qui peuvent sortir. Donc n'hésitez pas à retrouver toute l'actu de la Formule 1 sur cette page Instagram avec Louis Gerbier que vous avez déjà entendu. C'est Séraphin, notre ingénieur du jour. Salut Séraphin.
Salut messieurs, très heureux de vous retrouver après cette longue pause.
T'étais pas en manque toi qui es un drogué à la F1, t'étais pas en manque là sur ce mois?
Bah franchement, avec ce qu'on a eu depuis le début de l'année, sincèrement ça va. Franchement, c'était moins dur que ce que j'aurais pu imaginer. Et il y avait d'autres belles compétitions aussi, il y avait le WEC notamment. Attends. Donc je me suis régalé quand même.
Ah, il est en sevrage de Formule 1 à cause de la réglementation, ouais. Séraphin. C'est terrible.
Il minimise, moi je le voyais, il tremblait toute la journée au boulot et tout, il était pas bien, il avait des sueurs et tout.
Je faisais mes Lego
F1. Mâchait beaucoup de chewing-gum, enfin bref. C'est parti les gars pour cette preview du Grand Prix de Miami. On commence par le programme habituel. Ça débutera pour la première séance d'essais libres à 18h ce vendredi. C'est un week-end de course sprint, donc les qualifs de la sprint race auront lieu demain vendredi à 22h30. La course sprint samedi à 18h, puis la séance de qualification à partir de 22h. Vous suivez ces deux temps forts là sur l'antenne de RMC avec Jean-Luc Roy, et puis la course sera dimanche à 22h. Voilà pour les heures de ce week-end de course à Miami. Les gars, on va revenir sur plein de petites choses. Bien évidemment, il y a eu des modifications qui sont tombées au niveau du règlement. On avait préparé un petit podcast en disant que ça pouvait bouger. Ça a bougé un petit peu. Avant ça, je voulais qu'on fasse la petite presse de ce Grand Prix de Miami, qui est toujours un événement particulier, un peu people. Ce qui va être particulier là, les gars, c'est la météo. Parce qu'on annonce des orages aux États-Unis. Ça peut grandement impacter la course, Louis.
Bah ouais, ça va grandement, clairement. En plus, on a un envoyé spécial sur place qui a des infos précises et qui nous dit que ça risque d'être sacré bazar. Donc, ça fait un mois qu'on n'a pas eu de F1 et ça se trouve ce week-end, il se peut qu'on en ait peu, pas beaucoup. On verra. Ça peut aussi peut-être un peu faire bouger la hiérarchie. Donc ça peut être très intéressant. Mais on en est quand même à un point où on se demande comment ils vont faire, s'ils vont pas nous la décaler de plusieurs heures ou quoi. Donc rien que ça, c'est un premier problème après un mois de pause. Mais après, si t'as une course de F1 là-bas, ça peut, enfin une course de F1, oui, tu l'auras là-bas. Mais une course de F1 sous la pluie là-bas, ça peut être quand même très sympa. Et un circuit qui, je pense, s'y prête pas mal pour le petit secteur hyper lent là sous la pluie. J'aimerais pas être dedans parce que ça doit pas être simple. Mais ça peut permettre une belle course et un petit resserrement parce qu'on a quand même l'impression, malgré les nouvelles réglementations que Séraphin va énoncer tout à l'heure, que quand même Mercedes, normalement, ça ne va pas les perturber plus que ça et qu'ils vont être devant. Donc la pluie pourra aider, ouais.
Et puis circuit en ville, on rappelle. Ouais, donc circuit en ville, ouais, la pluie, c'est quand même pas la même chose non plus. Hein. C'est ça, comme tu dis,
toujours plus dur.
Ça peut rendre. Et on rappelle que c'est un circuit qu'on n'a jamais eu depuis 2022. On n'a jamais eu de conditions de pluie. Même si l'année dernière, on s'en souvient qu'il avait plu un peu avant. Et on se souvient de Charles Leclerc qui s'était fait piéger aux rentrées de tour. Je ne sais plus si c'était pour la Sprint Race ou Il semble que c'était pour la Sprint Race. Mais comme tu l'as dit, Louis, c'est surtout la journée de dimanche, on précise quand même, où on annonce un risque de pluie. D'ailleurs, j'avais les chiffres que j'ai pris juste avant de faire le podcast.
88%, j'ai vu la probabilité.
Exactement,
là, hein.
88% de précipitations dimanche et 53% risque d'orage. Et comme l'a dit Louis, on rappelle qu'aux États-Unis, il y a une règle aussi qui s'applique en fonction de s'il y a un orage, notamment la foudre qui frappe aux abords du circuit, on peut agiter un drapeau rouge et arrêter une course. Donc c'est beaucoup plus, on va dire, assidu sur l'aspect très sécuritaire des conditions s'il y a un orage. Donc ça peut tout rebattre les cartes, comme a dit Louis.
Ouais, et puis l'orage, on rappelle aussi, l'orage, c'est l'hélicoptère qui ne peut pas décoller.
Exactement.
Et quand un hélicoptère ne peut pas décoller, on ne court pas puisqu'on ne peut pas secourir, à moins qu'il y ait un hôpital à moins d'un quart d'heure. Enfin, il y a des règles comme ça. Enfin, ça peut engendrer beaucoup de choses, mais la Sprint Race, Séraphin, tu l'as dit, normalement, elle devrait être à peu près épargnée, donc c'est déjà ça.
Mais ça va être un week-end ça peut être le week-end du n'importe quoi, les gars. Parce que, on le rappelle, non mais week-end de course sprint, donc une seule séance d'essai, des petites modifs, des voitures qu'on part rouler pendant un mois, des pilotes qui doivent se remettre dedans. J'ai pas envie de dire que ça peut être le chaos, mais j'ai la sensation, même si Mercedes est encore annoncé comme grande favorite sur cette course-là, bien évidemment, et ce sera probablement le cas encore pendant plusieurs courses, j'ai quand même l'impression qu'il peut tout se passer là. Tu vois, là tu sais pas à quoi t'attendre avec ces événements météo qui menacent.
Bah oui, et puis ça va resserrer les choses. Et surtout, comme tu dis, si ça peut créer un chaos, ça veut dire que clairement, des gars qu'on n'attend pas peuvent faire de bonnes choses. Et que peut-être, c'est peut-être aussi la bonne... Comment dire, la pluie, c'est peut-être la bonne chose pour cette réglementation. Parce que ça va peut-être redonner une part au pilotage un peu plus importante,
c'est sûr,
qu'en début de saison.
Bien sûr.
Justement, c'est ce qu'on trouve un peu dans cette réglementation qui manque. On a l'impression que, bon, comme le dit Jean-Luc, ce sont les ingénieurs maintenant qui pilotent presque. Donc là, la pluie, normalement, super clipping, pas super clipping, la pluie, c'est du pilotage. Donc de ce point de vue-là, ça peut être très intéressant. Donc on espère qu'il va pleuvoir, mais pas trop.
Ouais. Cinquième course à Miami, hein, les gars, dans l'histoire de la Formule 1. Max Verstappen s'est imposé deux fois, 2022-2023, Lando Norris en 2024 et Piastri en 2025. Donc les cadors du paddock actuel se sont déjà imposés à Miami. Verstappen qui a signé deux pole positions. Charles Leclerc qui avait signé la pole en 2022. Voilà un peu pour les petites stats.
Et Antonelli, on termine sur Antonelli, première pole position l'année dernière à Miami.
Mm. Ah oui, je l'ai pas celle-là.
Oui.
T'es sûr? T'es sûr de toi là?
Je l'ai vu avant le. Ouais, j'ai regardé. Ouais.
Bon, on va vérifier.
Après, il a fait un mois de pause. Normalement, il a toutes les stats dans la tête.
Non, mais c'était peut-être sur la sprint race l'année dernière. Mais t'as peut-être raison.
Oui, la sprint race, hein. Tout à fait, parce que c'est Max Verstappen qui a fait la pole position en course longue.
Exactement. Ouais, ouais. Voilà, je me disais bien, il m'a mis dans le pouce celui-là là.
Moi, je m'en souvenais très bien, mais je vous laissais débattre.
Ouais. Dernière question, les gars, sur ce circuit Séraphin. Louis parlait un petit peu des spécificités de ce Grand Prix de Miami. On le disait, tracé urbain avec un secteur très lent. C'est un circuit que toi t'apprécies. C'est un endroit cool ou forcément Miami, on n'y va pas forcément pour le tracé. C'est plus un peu pour tout ce qui se passe autour. C'est un peu un Monaco bis quoi, dans le côté people.
Exactement.
Il se passe beaucoup de choses dans le paddock plus que sur la piste hein, en général.
Exactement. Toi, tu me fais penser. Ça me rappelle. Je crois que c'était la première édition en 2022. Je crois qu'il y avait même Donald Trump qui était venu à l'époque, je crois, sur le tracé.
Ah. Je connais pas.
Comme tu dis, c'est un peu le Monaco, le Monaco des États-Unis. Moi, j'avoue que je suis pas forcément. Très très fan de ce circuit. C'est vrai que voilà, on a un circuit qui est assez 5 km 4, donc un circuit plutôt à moyenne distance, avec pas mal de virages lents quand même. On a, je rappelle qu'on a 3 lignes droites et qui seront du coup en mode ligne droite aéroactif. Mais ouais, non, j'ai pas forcément des souvenirs extraordinaires. C'est plus ce qui m'a marqué, cette victoire de Lando Norris, sa première en 2023, qui a fait que Miami est quand même, je trouve, dans l'esprit, Marc, il y a eu des courses sympas. Mais c'est vrai que globalement, comme tu l'as dit, on rappelle qu'on est près du Hard Rock Stadium quand même.
On est autour.
Et donc en fait, on sait très bien pourquoi ce Grand Prix a été fait aux États-Unis, précisément là-bas. Et voilà, on va voir ce qui se passe.
Je crois même que les paddocks sont à l'intérieur, je crois, hein, du Hard Rock, dans mes souvenirs. Je ne sais pas si c'était toujours le cas, mais une année.
Pas le paddock, mais un peu
les hospitalités. Le côté, ce que les motorhomes qu'on voit un peu habituellement, ils sont là-dedans.
Et puis on sait qu'il y a la fosse marina, il y a même un télécabine, je crois, qui passe au-dessus du circuit. Donc c'est un circuit où on a mis le gros pognon sur la table et où on vient pour remplir et faire l'image, l'impression d'avoir un Grand Prix aux États-Unis. On sait l'importance, évidemment.
Ça, c'est clair. Donc, à suivre ce Grand Prix de Miami. On se penchera un petit peu sur le sportif et sur nos pronos en fin de podcast. C'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais avant tout, ce qui nous questionne avant ce week-end de course, c'est les petits changements qui sont intervenus là en Formule 1 pour essayer de redynamiser la course et surtout les qualifications. On va vous faire un point sur tout ça. On en avait parlé. Jean-Luc nous disait que ça allait être, je cite, un pansement sur une jambe de bois, plusieurs pansements sur une jambe de bois. Malgré tout, la FIA, avec l'aide et l'appui des écuries et des pilotes, a tranché et a quand même essayé de sortir une réglementation un peu différente pour améliorer le spectacle. On va essayer de vous détailler ça et d'être le plus clair possible. Séraphin, tu es notre caution technique dans ce podcast. Louis, c'est notre caution people, vous le savez bien, les amis. Du coup, tu vas nous présenter la règle la plus impactante. Alors, il y a eu des règles qui ont été mises en place pour la course, mais surtout pour les qualifs. Explique-nous ce qui va changer en qualif.
Tout à fait, et même aussi pour les départs.
Alors, pour les départs
aussi. Donc tu l'as dit déjà par rapport au programme, on a 90 minutes de première séance d'essai libre. On a augmenté volontairement pour permettre aux écuries qui ont des voitures avec beaucoup d'améliorations de pouvoir mieux les comprendre. Si on va commencer du coup par les qualifications, le premier point, c'est que la recharge maximale autorisée par tour passe de 8 à 7 mégajoules. Afin de limiter, donc on le sait, la récupération excessive d'énergie et de favoriser le pilotage pur, finalement, hein, de la qualification, où on veut éviter que les pilotes dépendent trop de cette batterie et qu'on ait un tour à pleine puissance. Ensuite, il y a la puissance maximale du super clipping qui est portée de 250 à 350 kWh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourra beaucoup plus recharger, mais l'objectif, en fait, c'est de réduire la durée de super clipping, exactement, et on l'estime à environ 2 à 4 secondes par tour, alors qu'aujourd'hui, on était plutôt à 7-8 secondes. Donc, c'est à ça que ça doit servir. Et enfin, on a aussi, encore une fois, pour aussi limiter l'appui d'énergie plus basse, c'est-à-dire qu'on l'a dit juste avant qu'on va baisser du coup la capacité de maximum de la recharge par tour. Et ça va aussi s'appliquer pour d'autres grands prix, puisqu'on sait qu'en fonction des tracés, on ajuste aussi cette récupération. Et donc la FIA a annoncé qu'il y a des limites d'énergie qui sont plus basses et on passe de 8 à 12 grands prix pendant l'année où on va pouvoir baisser du coup cette quantité de recharge, donc pour éviter de trop utiliser cette batterie. Ça, c'est pour les qualifications.
Ça, c'était attendu, Louis. On savait qu'ils allaient jouer sur tout ce qui était utilisation de la batterie pour redynamiser. Moi, j'arrive pas à me rendre compte si ça va être vraiment impactant, les mecs. C'est compliqué à dire. Il va falloir voir dès vendredi. Mais je sais pas. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que il y avait que ça à faire finalement pour essayer de redynamiser un peu le truc et qu'ils ont tout tenté? J'ai du mal à me positionner sur ça.
Pour essayer de, encore une fois, je pense que tu as raison. Même de nous, on est en tant qu'observateur, en tant que journaliste, on n'a pas tous les éléments et c'est des choses qu'il faudrait avoir avec des ingénieurs qui travaillent sur l'aspect software des voitures. Mais pour ce qui est, par exemple, du fait qu'on passe de 8 à 7 mégajoules, ça devrait permettre normalement quand même de pouvoir faire un tour à pleine puissance en termes de dépenses et qu'on est du coup quand même moins rechargé et qu'on n'ait pas cet esprit de tour de qualification qui perd de cette bataille qu'on avait du tour qu'on faisait à 100%, ouais. Tu vois.
Donc, là, tu vas pouvoir tout donner sur un tour.
Franchement, c'est l'objectif et on devrait l'avoir. Après, ça dépend encore une fois des tracés, des circuits. On n'est pas optimal pour la recharge pour ce qui est de Miami. On le compare beaucoup à Melbourne, c'est ce que je disais. Donc, il faudra voir. Je suis d'accord que c'est... Je pense que c'est bien résumé. En fait, c'est des pansements qu'on met sur cette réglementation qui est globalement difficilement compréhensible et appréciable.
Ah, ils ont utilisé leur marge de...
Pardon ? Je disais, nous, on veut nos séances de qualif de la saison
dernière. C'est ça, ils ont utilisé.
Non, mais en fait, on reste sur une saison exceptionnelle en termes de qualif, où on s'est régalé. Dernière année d'une réglementation, où ça se jouait à des centièmes, voire des millièmes de secondes. Et t'as envie de retrouver cette adrénaline-là, ce qu'on a vécu l'an dernier.
Oui, après, qu'il y ait des écarts, c'est le lot de chaque début de réglementation, c'est logique, c'est normal. Après, le reste, c'est que tu as envie de voir, comme tu dis, on a envie de retrouver nos qualifs, au sens où on a envie de retrouver des qualifs où il y a des tours qualifs, des tours où le gars, pardonnez-moi, il bourre.
Bien sûr. Hein.
Voilà, il n'y a pas un super clipping qui fait 2,5 secondes ou 3 secondes ou quoi. Et bon, ce que Séraphin a présenté, ça montre qu'ils avaient une marge de manœuvre qui était infime. Bon, on va leur reconnaître déjà l'effort. Ils auraient pu aussi s'entêter en disant qu'ils ont raison et que personne n'a compris. Ils font le peu qu'ils peuvent faire, mais comme tu dis, on verra ce week-end. Mais enfin, comme dirait Doui, je m'attends à rien, mais je vais quand même être déçu, quoi. Je pense. Hein.
Qu'est-ce que tu as de belles références.
Adoui,
c'est ça que je préfère dans ce podcast.
mais oui, c'est parce que j'ai du mal à croire, on en parlait avec Jean-Luc, que de toute façon, même s'ils avaient voulu faire le maximum, même s'ils ont fait le maximum, la marge de manœuvre est trop infime pour le moment. En revanche, j'espère que là, tout le monde est déjà en train de bosser sur qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine. Et a fortiori, est-ce qu'on ne peut pas faire perdre un an ou deux à cette réglementation qui devait durer je ne sais plus combien d'années et la réduire ou, enfin voilà, quoi, des choses pour évoluer. Parce que je pense que ça ne va pas être suffisant ce qu'ils nous ont concocté ce mois-ci, même si je les félicite d'avoir quand même écouté tout le monde et d'être allé dans ce sens. Parce que ce n'était pas forcément parti comme ça au début.
C'est vrai que la Formule 1 était réactive, c'est pas toujours le cas. Là, pour le coup, ils ont senti qu'il y avait des vrais soucis de fond et
de
ils
sécurité.
Ont écouté toutes les parties prenantes. De
c'est
sécurité,
vrai que ça a été déterminant aussi, le gap de vitesse, finalement, c'est peut-être ce qui a...
C'est plus dangereux.
L'accident de Berman.
Ouais, l'image a choqué tout le monde et comme c'est vraiment la faute de la réglementation, quoi, littéralement. Alors, tu peux toujours dire non, les pilotes auraient pu faire mieux, machin et tout, mais eux aussi la découvrent. Et ont des réflexes de pilote. Et donc, à ce moment-là, ce gap et cet accident a sûrement refroidi, calmé tout le monde. Et c'est peut-être aussi ce qui a amené à que tout le monde se mette autour de la table plus facilement que dans les semaines précédentes.
Ça, c'est clair. Tiens, qu'est-ce qui change en course, là ? Parlons de l'aspect sécuritaire. Il y a encore une incidence sur le super clipping, il me semble, pour la course, Séraphin. Et en plus, ils ont essayé d'atténuer ces deltas de vitesse, là, dont on parlait, et ce qui a causé l'accident de Berman à Suzuka.
Eh, tout à fait. Donc là, on va jouer sur le déploiement du MGUK, hein, donc qui est la partie électrique. Et alors, ce qu'on a, c'est qu'on va rester à une autorisation jusqu'à 350 kW dans des zones dites d'accélération clé. Je cite le règlement. Donc, c'est les sorties de virage jusqu'au point de freinage, des éléments importants, y compris pour des zones de dépassement. Mais hors de ces zones, justement, le MGUK, on va le limiter à 250 kW. Pour réduire du coup la puissance disponible notamment entre lignes droites dites calmes ou les décélérations ou les parties sinueuses. Donc on sait aussi que factuellement on va perdre du temps autour, hein. Faut clairement on n'a pas encore les estimations précises, mais on sait qu'on va perdre cette partie là et aussi le parti du mode boost. Donc on se rappelle, hein, on a le overtake quand on est à moins d'une seconde du pilote, mais aussi à tout moment le pilote, et ça c'est pour tout le monde, on a un mode du coup boost, et là on va le plafonner à plus 150 kW. Aussi, donc encore une fois, on essaie de réduire en fait concrètement les écarts importants de vitesse pour éviter d'avoir des, comme on l'a dit, des écarts d'un coup qui soient significatifs. Donc ça, c'est pour ce qui est de la gestion en course.
Ok. C'est très clair et bien évidemment avec, on le disait, cet aspect sécurité qui a forcément boosté ces prises de décision. Et puis il y a la procédure de départ aussi qui va changer. Alors ça va être testé à Miami, c'est ça Séraphin, cette nouvelle procédure de départ?
Exactement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour le départ en Formule 1, le MGUK ne peut pas s'activer en dessous de 50 km/h quand on fait un départ. C'est pourquoi on a eu des départs parfois où les pilotes, ils étaient complètement déchargés et en fait, ils n'arrivaient pas à démarrer. Et là, ce qu'on va tester du coup et qui va être mis en place, ça va être un système de détection de départ à faible puissance qui va être capable du coup d'identifier les voitures qui accélèrent anormalement peut avoir passé le point d'embrayage. Et si c'est détecté, il y aura une activation automatique du coup du MGUK qui va intervenir pour qu'on garantisse une accélération minimale, qu'on évite de se retrouver avec une situation comme on a eu par exemple au premier Grand Prix en Australie, sans donner du coup de gros avantages, mais c'est pour éviter que la voiture finalement reste sur place. Donc je pense que ça c'est vraiment électronique pour le coup, hein. C'est vraiment les capteurs qui vont analyser que la voiture ne démarre pas et du coup on a un boost de MGUK qui se met en route. Et également, du coup, on aura un système d'avertissement visuel, donc notamment les feux clignotants à l'arrière et sur les côtés qui seront activés pour prévenir les voitures du coup de derrière que la voiture elle est en difficulté.
Ouais, comme nous quand
démarrer.
On cale sur
le mec qui met ses warnings et il sort, il met un gilet warning. Jaune. Et dit, attention, je vais mettre le triangle à 30 mètres. S'il vous plaît.
Ce que j'allais dire, il va poser le triangle à 30 mètres. Ça. Excellent. Bon ben voilà, on a fait le tour de toutes les nouvelles mesures, je crois, hein, les gars. On va voir ce que ça donne dès ce Grand Prix de Miami.
Je termine quand même. On parlait justement des conditions humides. La FIA a quand même bien précisé que pour les conditions humides, qu'on n'a pas encore eu depuis le début de l'année, on aura du coup des températures de couverture chauffante qui seront augmentées pour les pneus intermédiaires. Et aussi, du coup, le déploiement maximal de l'ERS sera réduit, donc cette partie de l'électrique. Et normalement aussi, le mode boost devrait ne pas pouvoir être utilisé. Donc encore une fois, on réduit tous ces ajouts, on va dire, de déploiement électrique pour que, quand il y a des conditions de pluie, on se retrouve avec des voitures qui accélère d'un coup et où on perdrait l'arrière, je ne sais pas. Donc il y a aussi des petites choses par-ci par-là. Et là, ce qu'on a là, en fait, ça pourra peut-être aussi encore évoluer, il faut le savoir, dans les prochains Grands Prix. Parce que là, ce qu'on va tester, on va encore en tirer des nouvelles choses.
Écoute, tu as été très bon, mais ça reste imbitable, cette nouvelle réglementation, faut se le dire. J'espère que vous êtes restés avec nous. Non, mais c'est ultra technique.
Et puis quand tu vois tout ce qui modifie, enlève selon l'adresse,
c'est ça.
Tu te dis, mais est-ce que du coup, c'est pas la preuve que tous que ces artifices, c'est pas bon, ouais, c'est mal né tout ça.
J'allais dire une expression vulgaire, mais ouais. Oui, clairement. Non, mais c'est sûr qu'en plus, quand tu vois que tu dois faire des ajustements avant chaque tracé pour t'adapter aux conditions du circuit, bon, c'est clair que là, tu te dis qu'il y a un loup. Mais bon, écoute, à suivre. On va voir en tout cas si on a retrouvé un petit peu l'ADN de la Formule 1 sur ce week-end de course à Miami. Et bien évidemment, on se fera le débrief dès lundi avec notre team principal, Jean-Luc Roy, qui, spoiler, je peux vous donner un petit peu la prise de position avant l'heure, va encore une fois brûler la nouvelle réglementation.
Quoi ? Oh la vache, je m'y attendais pas.
Les gars, partons un petit peu sur ce petit mois de trêve. Parce que c'est vrai qu'on a vu des pilotes à droite à gauche, on en a vu des pilotes français faire des événements sport auto, on les a vus dans les tribunes du Parc des Princes pour aller voir le PSG, il y en a qui ont roulé. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait pendant leur trêve, tous ces champions, Louis? Je te disais, on a beaucoup vu les Français dans les tribunes du Parc.
Ah bah oui, on les a vus tous régalés. Ensemble, alors ils étaient tous ensemble et côte à côte. Esteban Ocon, Pierre Gasly, l'image avait fait beaucoup sourire, mais il fallait vite comprendre qu'ils n'étaient pas côte à côte par hasard. Ils étaient invités par le diffuseur, puisque la même semaine, ils avaient une émission spéciale tous les trois avec, sur la même chaîne qui diffuse également la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, pardon. Donc, ils ont eu la chance de voir ce match. Je crois même, je me demande si Pierre Gasly ne s'est pas déplacé à Anfield aussi. Je crois avoir vu une photo du mémorial de Diego Jota sur ses réseaux. Ouais. Charles a fait du golf, si vous voulez tout savoir.
Et ouais. Ah oui ?
Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui.
Il fait beaucoup de golf.
Ouais. Avec, bon swing.
Avec une paire de chaussures avec, à l'effigie de son chien dessus. Là, on est vraiment sur les sujets que j'adore.
Attends.
Là, vous savez que là, ça
non, mais
plaît.
Là, rentrons dans le détail. Il a mis... Enfin, comment ça se passe, là? Paire de chaussures, ouais. Le chien était où?
Alors, c'est...
Genre, sur la semelle?
T'imagines une paire de Stan Smith, classique.
Ok, très bien.
Je crois que c'était le modèle rouge.
Ok.
Et donc, sur le côté, là où, globalement, t'aurais le logo de la marque, habituellement...
Oui.
Tu avais un mini, je crois que c'est Léo son chien, si je me trompe pas.
Ouais, un mini Léo. Ouais,
c'est pas voilà. Leclerc, mais Léo.
Voilà. Ouais, c'est ça, Leclerc. On était passé sur Leclerc qui fait du golf là. Okay. Tac. Et donc voilà. Donc c'est super.
Ça c'est exceptionnel.
Voilà. Bravo, il a fait aussi. Ils ont fait aussi pas mal. Évidemment, on est en 2026. Tu fais beaucoup de choses pour les sponsors. Donc on les a vus de part et d'autre enregistrer des pubs, faire ces choses-là. C'est la vie moderne d'un pilote de F1. J'ai vu que Pierre avait un chien lui aussi, apparemment il faut son chien aujourd'hui pour être je connaissais pas. Enfin voilà,
une petite revue
d'Instagram des pilotes. J'ai Lewis aussi qui vit son idylle
qui est
avec Kim.
On parle mariage apparemment. Alors voilà.
Avec Kim Kardashian on parle mariage.
Apparemment alors.
Bon alors là c'est exceptionnel. Alors là c'est le mariage à pas rater. T'es pas paradis là, t'as envie d'être invité. Hein.
Oui. Bah, alors déjà que j'étais pas invité au Parc des Princes, je vais pas y être au mariage. Je te le dis. Moi.
Ouais, c'est possible qu'on ait pas le carton d'invitation.
Ouais.
Puis il y en a un qui a roulé quand même, c'est Max Verstappen.
Alors oui, mais moi on m'a dit tu bosses le people. J'ai bossé le people. Le gars qui a roulé, je m'en suis pas occupé.
C'est vrai que j'étais missionné uniquement sur le people. Mais parce que c'est là que t'es très fort. Tu vois l'info Léo et sur les chaussures de Charles Leclerc, c'est ça qu'on veut.
Ah bah là, c'est du Laurent Saïm ça.
Max Verstappen a roulé Séraphin en endurance. Il a été en plus assez impressionnant sur la piste. En tout cas, c'est ce qu'ont dit plusieurs ingénieurs. Et forcément, il y a eu ce débat qui est ressorti tout au long de cette trêve. Il s'éclate dans une autre formule. Il n'a pas besoin de la Formule 1 pour s'épanouir, quoi, tout simplement. Et du coup, il y a pas mal de pilotes qui ont fait des petites déclats comme quoi ils voulaient absolument le faire rester en Formule 1, mais que ça dépendait bien évidemment du choix de Verstappen. En tout cas, il a l'air de s'épanouir vraiment là dans son projet endurance, Séraphin Verstappen.
Ah bah carrément, je suis d'accord. En fait, ça a même donné un coup de projecteur finalement, tu vois. Donc c'est pour les 24 heures du Nürburgring qui auront lieu en mai. Et j'ai l'impression quand je voyais même la presse spécialisée, du coup on avait beaucoup de papiers sur Verstappen vient de rouler, etc. Ça fait venir beaucoup de monde. Il roule d'ailleurs avec Jules Goudon, hein, qui est français dans son équipage. Et on voit que on l'a déjà dit souvent, mais que c'est un pur racer et que là c'est de la vraie course de bonhomme entre guillemets. Donc ça fait plaisir de le voir et c'est sûr que il peut pas être insensible avec ce qui se fait là par rapport à la suite et il a raison. Et dans le même cas aussi, je sais pas si vous avez vu passer aussi Lance Stroll qui a roulé au GT World Challenge. Et c'était la première manche au Castellet il y a quelques semaines. Donc aussi de voir des belles images de Lance Stroll souriant en train de rouler en GT. Donc c'était hyper, hyper plaisant. Et ouais, Verstappen, alors il me semble que, si je dis pas de bêtises, il a été disqualifié parce qu'il avait utilisé un train de pneus supplémentaire. Il me semble que c'était 8 autorisés, il en a utilisé 9. Voilà. Mais il a fait la pole position et il a fait une grosse course. Le gars, il arrive, il défonce tout en fait. Genre, c'est ça qui est quand même impressionnant, quoi, avec le type. Tu sens que dans tout ce qui roule, en fait, il envoie le paquet et c'est une machine de guerre. Donc, c'est incroyable.
Ça prouve quand même que c'est quand même ce mec-là une attraction. On parlait de meilleurs pilotes du monde du moment dans notre fameux épisode, la podcast sur la bataille des époques entre les différents pilotes. C'est vrai qu'on a utilisé ce terme-là. Et ça pose une question quand même, Louis, c'est qu'à un moment, la Formule 1, elle va devoir se battre peut-être pour garder sa superstar. Et certainement qu'il faut qu'elle se batte pour garder sa superstar.
J'ai lu George Russell dire que la F1 est plus grande et passera, survivra.
Oui, il a sûrement raison, mais il dit aussi que il veut qu'il reste.
Oui. Il a sûrement raison en soi, mais je pense que quand même aujourd'hui, il faut se battre pour le garder parce que, comment dire, c'est une zone de turbulence que passe la F1 là, clairement. Enfin, moi. Je vous l'ai pas caché, cette année j'ai un peu de mal à suivre les grands prix. Je suis là, je retrouve pas du tout ce que j'aime, et donc je pense que c'est pas le moment de perdre un peu celui qui incarne, comme vient de le décrire Séraphin, l'ultime racer, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui renvoie, ce qui dégage, son CV évidemment, sa carrière, c'est hyper important pour l'écosystème F1. Et que c'est vraiment pas le moment de perdre Max Verstappen, bien qu'il ait un défaut, puisqu'il n'a aucune paire de chaussures avec son chien dessus.
Il a peut-être pas de chien. Alors, ça peut, ouais, jamais vu avec
ce qui se ferait deux défauts, du coup.
Il y a déjà un enfant qui se dit mince.
Bah, ah ouais, donc là on en est là, on compare un enfant avec un chien.
Non, mais.
Pas très loin ça, Raphaël. Non, mais à suivre. En tout cas, c'est vrai que Max Verstappen, on sent que. On sent qu'en tout cas, il y a des voix qui s'élèvent pour essayer de le concerner et de le garder. Ça veut quand même dire qu'il y a, il y a un sujet dans tous les cas. Sinon, ça ne reviendrait pas sur le tapis chaque semaine, cette histoire de l'avenir de Max Verstappen. Je vous rappelle qu'au moment où on enregistre ce podcast, les conférences de presse ne sont pas encore tombées à Miami. Mais peut-être qu'on va lui poser la question s'il se présente en conférence de presse. Et bien évidemment, on parlera de tout ça dans le podcast de lundi. Autre déclaration sur laquelle je voulais qu'on revienne, c'est celle d'Andrea Kimi Antonelli, qui s'est confié à la presse pendant cette trêve sur son début de saison. Deux victoires pour lui, le leader actuel du championnat du monde. Hein. C'est quand même fou de se dire qu'Andrea Kimi Antonelli mène cette saison de Formule 1. Il affirme avoir réduit l'écart avec George Russell. Alors, il dit bien que George Russell est très fort, toujours très fort, mais il dit qu'il sent qu'il a vraiment réduit l'écart. Et entre les lignes, voilà, on sent qu'il y a de la confiance, il y a une vraie montée en puissance et que Serafin, il est prêt, bah, il est prêt à aller à la bagarre. Là. Il n'a plus peur, en fait. Tu vois, tu le sens décomplexé, là, Antonelli. Ça y est, il a eu un déclic.
Ouais, il y a eu un déclic, tu l'as dit, quand même, deux courses consécutives où il gagne. Il y a quand même aussi deux pole positions consécutives. Donc là, je voyais le classement. Hein, Kimi Antonelli, là, on est à 72 points. Il a 9 points d'avance sur George Russell, qui a 63 points. Il y a eu quand même des circonstances atténuantes pour Russell, qui a eu quelques difficultés parfois qui n'étaient pas toujours de son fait. Mais oui, Andrea Kimi Antonelli, il a atteint une certaine maturité, deuxième saison en Formule 1, avec une voiture qui est compétitive. Cette année, c'est vrai que c'est très positif ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Après, moi, je resterai quand même pour l'instant un peu en tant vraiment qu'observateur, parce que je considère qu'on n'a vu que 3 courses et que la saison, elle est très très longue. Et attention à une durée de saison où on peut avoir des hauts, des bas. Je suis évidemment très enthousiaste à le voir. Et c'est une surprise pour tout le monde, évidemment, de le voir devant George Russell, qui est quand même George Russell, lui, qui commence à être un ancien, qui a quand même 4 saisons chez Mercedes. Donc évidemment, quand on s'attendait à que ce soit plutôt lui qui soit en tête. Et finalement, c'est son coéquipier, le petit jeune. Donc... ouais, il va falloir voir. Moi, je suis curieux de voir sur les 4-5 Grands Prix qu'on ait au moins quand même le quart de saison, tu vois, pour pouvoir avoir plus de, ouais, un peu plus de matière encore que 3 courses et on va dire 2 à 1, on va dire, sur la globalité pour
ouais, mais non, mais tu vois, Louis, le fait quand même qu'il en parle dans la presse, bon, après on lui a posé la question, il a répondu, mais ce que je veux dire, c'est que tu le sentais quand même beaucoup plus réservé l'an dernier, et on sait que les pilotes de Formule 1, tous les week-ends, ils passent devant les journalistes, Antonelli, il s'est jamais affirmé comme il l'a fait là, donc c'est pour ça que je parle de déclic, et que tu sens que bah, y a de la maturité, il a une saison dans les jambes, tu sens que il a vraiment mûri.
Et puis il y a une voiture aussi, surtout, hein, pas se mentir, hein, il a une,
ouais,
voiture compétitive.
Oui, il y a la voiture.
Et dans, mais les déclics, il a gagné désormais. Enfin, oui, il y a plein de choses. Hein, il y a plein de choses. Il a battu George Russell, il a gagné un Grand Prix.
L'Italie est derrière lui aussi. Hein, on sait qu'en Italie, c'est devenu aussi une icône.
Les audiences d'ailleurs en Italie cartonnent, hein, les gars. Hein, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu des audiences comme ça. Il y a un vrai engouement autour du phénomène Antonelli, ouais, en Italie. Hein.
Je l'ai même aperçu en Italie pour la première manche du WEC à Imola. C'est lui qui a agité le drapeau. Et tu voyais que c'était. Franchement, c'est une superstar maintenant, Antonelli.
C'est une superstar.
Il fait renaître. Bon, même si c'est pas chez Ferrari, évidemment, mais. Il fait renaître l'image des pilotes de F1 italiens. Donc.
Du coup, on en profite. On va se faire un petit peu nos pronos du week-end. Les copains, Louis, le meilleur en pronos.
C'est moi le... Je me suis encore jamais trompé, c'est fou quand même.
On se met jamais. On se met nos petits pronos sur le groupe WhatsApp, parce qu'après, notre producteur préféré, Kylian Vérov, vous fait des beaux visuels sur l'Insta, Paddock RMC, où avant les Grands Prix, vous avez toutes les tendances, les favoris de l'équipe du Paddock. Sur quoi tu mises un peu ce week-end ? J'avoue que moi, j'ai eu beaucoup de mal à trancher, parce que je ne sais absolument pas à quoi s'attendre, surtout avec ces conditions météo. De mon côté, j'ai joué la sécu. Mais avec ce qu'on nous annonce, je vois quand même bien une surprise. Tu mises sur quoi, toi, Louis?
Je mise.
C'est dur, hein?
Ouais.
Qu'est-ce que t'as mis? Attends.
J'ai mis un truc très boring. J'ai mis les Mercedes et Charles derrière, c'est-à-dire, on va dire, oui. Quelque chose d'assez évident. Enfin, évident. Pas évident, mais on va dire classique, dans le sens où par rapport au début de saison, tu te dis c'est ce qui peut se passer. Ça part du principe aussi que la pluie va pas non plus tout démonter, puisque je vous ai mis une hiérarchie quand même, on va dire, qui pourrait
t'as
être
George Russell, complètement Antonelli et Leclerc.
Et Charles Leclerc, pour les chaussures, j'ai mis Charles. Et donc voilà. Après, s'il y a une grosse pluie, j'aurais tout faux. J'ai pas mis de McLaren. Bien que, on sait que depuis 2 ans, c'est à Miami qui débarque avec un package et qui défonce tout.
On a une première charge de package.
Je suis pas sûr que ça fasse une
si grosse différence.
Ouais, enfin 2 x 103 là. C'est quoi l'expression de là? J'ai perdu.
Jamais 203.
Jamais 203. Oh là là. Excusez-moi, fin ouais, de journée. Bon. Mais jamais 203. Je pense pas que ça sera pour aussi déterminant quoi. Ils vont peut-être être là, progresser. S'il y a de la pluie, pourquoi pas, mais je reste classique.
Séraphin, ton podium pour ce Grand Prix de Miami.
Eh ben moi, écoute, j'ai osé mettre une McLaren, Lando Norris, pour pouvoir gagner ce Grand Prix, et derrière George Russell et Charles Leclerc. Mais c'est vrai que c'est très difficile parce que en fait, la philosophie d'où intervient ce Grand Prix de Miami. Et dans un contexte où on change partiellement des réglementations, on va dire, plutôt artificielles, du coup, sur ce déploiement. Et aussi que les voitures vont être significativement changées ce week-end. On a énormément, parce que tout à l'heure, effectivement, on parlait, on s'amusait que oui, les pilotes ont beaucoup, pendant ce mois de pause, été à droite à gauche. Mais ils ont surtout beaucoup travaillé, puisque par rapport à l'été où les usines sont fermées, là, pendant un mois, on a travaillé dans ces usines. Donc, on a analysé ces 3 premiers Grands Prix. On a même déboîté complètement des voitures. Je lisais une déclaration chez Honda. On a fait rentrer la voiture au Japon. On a complètement analysé tout ce qui se passait avec son moteur. En gros, partout, il faut avoir ce week-end beaucoup d'améliorations sur les voitures. On sait que Red Bull a testé un aileron Macarena, comme Ferrari. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, je ne pense pas que significativement la hiérarchie va être modifiée. Vous l'avez dit, je pense que Mercedes va être devant. Mais peut-être que chez Ferrari, on a trouvé des choses. Peut-être que chez McLaren, chez Red Bull, le fond de gris aussi. Donc, ça peut changer à partir de ce week-end sur le Grand Prix. Et ensuite, il y aura le Canada qui sera aussi une configuration où on va beaucoup plus solliciter le moteur. Ou peut-être ça va changer. Donc, ça rend, je trouve, encore plus difficile l'exercice de déterminer un gagnant ce week-end. C'est ça qui est excitant. Bon.
Donc tu nous as mis Norris, ensuite tu nous as mis
Russell, et Charles Leclerc.
Russell, et après tu as mis Charles Leclerc. Ouais. Moi j'ai fait classique, j'ai donné George Russell.
George Russell, comme dirait Moscato. Je ne sais pas si vous avez écouté cette semaine.
Ah non, j'ai pas. Ouais,
il l'a croisé et il a dit j'ai croisé George Russell. Et là personne ne comprenait de qui il parlait. Il dit mais si, le pilote de F1. Ah, George Russell.
George Russell.
Mythique.
J'ai mis Oscar Piastri en 2 parce que je pense aussi que les McLaren vont continuer sur leur lignée du Grand Prix du Japon. Et Piastri, c'est un circuit qui lui réussit bien. Bon, Norris aussi. Mais
il a gagné dernière.
Vous avez mis de la dernière. McLaren, ouais.
J'ai mis de
plus
la McLaren.
Plus le podcast avançait, plus je me disais, est-ce que j'aurais pas dû mettre une McLaren?
En plus, t'as mis un beau pull.
En plus, j'ai mis le pull McLaren aujourd'hui. Ouais.
Ah oui, oui. J'ai mis Antonelli en 3 parce que je ne l'avais pas mis au Japon. J'étais persuadé qu'il allait avoir une décompression et je me suis complètement trompé. Il montre qu'il a les épaules quand même pour être capable de soutenir cette pression. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait une défaillance du côté de Andrea Kimi Antonelli pour ce week-end. Voilà pour les petits pronos du paddock. Les gars, juste quelques brèves un petit peu là en fin de une brève calendrier, les amis, puisque la Turquie sera de retour au calendrier. On a aligné les billets, c'est Raphaël pour faire revenir le Grand Prix de Turquie dès 2027, hein, je crois. Hein, en plus,
ah bah, exactement.
Autour du Grand Prix.
C'est ce qui m'a surpris d'ailleurs en voyant ça. On sait que Portimao revient l'année prochaine au Portugal et là, du coup, le Qatar. Alors, c'est vrai que est-ce que ça surprend quelqu'un? Franchement, non. On sait très bien que c'est un pays où, encore une fois, hein, on le dit souvent, mais ils mettent les dizaines de millions sur la table. Et que la F1 est à la recherche de ces grands prix au Moyen-Orient. Il y a aussi, vous avez vu l'énorme chantier qu'on a en Arabie Saoudite pour accueillir un nouveau Grand Prix aussi, avec un circuit complètement à la Mario Kart, pour le coup, qui est complètement fou. Donc, non, c'est pas surprenant. Donc, voilà, on rappelle ce genre de tracé. Et puis, c'est vrai que dans la même ligne aussi, on a pu lire aussi le promoteur du Grand Prix de Silverstone, qui se tiendra pendant cette saison, qui se dit être prêt à recevoir un deuxième Grand Prix si nécessaire. Donc, encore une fois, on sait que c'est un Grand Prix aussi qui ramène beaucoup de monde, qui est sûr de faire tribune complet. Et voilà, donc... La F1 essaye de trouver des solutions, mais visiblement, ils veulent maintenir ces Grands Prix au Moyen-Orient. Je pense qu'ils vont essayer, on va voir ce qui se passera en fin d'année, mais leur objectif, ce n'est pas de prioriser des Grands Prix européens, mais c'est vraiment de faire ces Grands Prix au Moyen-Orient comme ils étaient prévus, mais peut-être en fin d'année. Évidemment, la situation va déterminer ce qui se passera.
Ouais, on va checker tout ça, Louis. Bon, Grand Prix de Turquie, on aime, on n'aime pas. J'ai aucune opinion sur le Grand Prix de Turquie.
Ouais, moi, dans les souvenirs, je crois qu'on a 2020, non ? 2020, je crois que c'est pas là où c'est pas là où il pleut en qualif et Stroll fait pole.
C'est Sakhir.
Ah, c'est Sakhir. Ok. Alors je me plante. On est bon là, Nico, sur cette fin de podcast. Sur la Turquie, moi, dans mes souvenirs, c'était pas trop mal. Après, Séraphin a tout dit. On sait qu'aujourd'hui, il faut arriver avec un gros chèque et que les circuits historiques, n'ont pas ces gros chèques. On a perdu Hockenheim, on en a perdu d'autres.
2021, victoire de Valtteri Bottas, Louis Germier. Dernière victoire, Grand Prix de Turquie.
C'est
ton,
terrible.
Ton pilote chouchou.
Mais bien sûr, bien sûr.
Tu peux pas me faire ça sur une fin de podcast.
Ah, punaise, ouais. Ah, Valtteri.
C'est dramatique. Bon, on va rester sur ça.
250e Grand Prix ce week-end pour Valtteri Bottas.
Mais bien, c'est une légende, vous. Vous comprendrez dans 10, 20 ans, mais vous comprendrez.
Mais bien sûr, on n'a pas assez de recul. Mais
exactement.
C'est souvent comme ça dans le sport.
Exactement.
Il faut qu'on ait un petit peu de recul. Les gars, merci beaucoup. Je vous rappelle le débrief du Grand Prix de Miami. Ce sera lundi. On reprend les bonnes habitudes. Je vous rappelle également que vous avez plein de podcasts là qui sortent du four. La bataille des époques. Vous avez aussi un grand podcast sur le Grand Prix historique. On vous a présenté cet événement qui arrive. D'ailleurs, Séraphin Tissera avec Alex Caldier. Vous allez nous faire plein de contenu que vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs sur le site rmcsport.fr et sur l'insta du paddock RMC. Donc voilà, si vous n'avez pas encore écouté ces deux podcasts, vous foncez parce que c'est rigolo. La bataille des époques, on a bien rigolé. Et le Grand Prix historique, c'est quand même un événement à part dans le calendrier en France.
Il y aura des
Français. On a l'organisateur qui est venu nous parler. Il y aura trois pilotes. D'autres Français de F1 qui seront présents. On a Franck Montagny qui est venu nous raconter comment ça se passe sur cet event. Donc foncez écouter le podcast. Bye bye à tous et à lundi.
Ciao.
Ciao ciao.
Le paddock RMC.